19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Bien sûr qu'on y croit. On joue la première passe, donc là c'est l'objectif. On va aller battre les Portugais.
Les Bleus face au Portugal. Ce soir, match revanche de la finale perdue en 2016. On sera en direct du stade à Budapest.
À Munich, ce sera Allemagne-Hongrie. Sur fond de bras de fer diplomatique autour, on en parlera du drapeau LGBT.
À Poissy, en région parisienne, on pourra se faire vacciner en regardant le match. Un dispositif spécial est installé dans la fan zone.
Le feu vert de Bruxelles au plan de relance français. 100 milliards d'euros, dont 40 milliards de subventions européennes.
Le procès de la tuerie des Troadec à Nantes. La personnalité de l'accusé était au cœur des débats aujourd'hui. Et puis un mythe qui rouvre à Paris. La Samaritaine vient d'en finir avec 16 ans de travaux.
La météo, Anissa Haddadi, un peu moins d'orage demain.
Oui, nous aurons encore quelques coups de tonnerre possibles dans le centre-est et notamment dans le nord de la vallée du Rhône. Mais bonne nouvelle, le soleil est enfin de retour. Il arrive par l'ouest. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On y est presque. Dans 2 heures, France-Portugal affiche de rêve, champion du monde contre champion d'Europe en titre et match aux allures de revanche pour les Bleus après la finale perdue de 2016.
Oui, les Français, déjà qualifiés dans les faits pour les 8e de finale, veulent gagner pour terminer premier du groupe. Quant aux Portugais, ils jouent leur avenir dans la compétition.
Cyril de la Morinerie, on vous retrouve en Hongrie. Vous avez la chance d'être déjà installé dans la Puskás Arena du stade, le stade de Budapest.
Qui est magnifique et qui se remplit petit à petit. Plus de 7500 fans français vont garnir les gradins de cette magnifique enceinte. Il y aura du bruit, mais sans doute un peu moins que face à la Hongrie. 55 000 spectateurs annoncés. La température, elle, est caniculaire. Il fera 31 degrés au coup d'envoi. Alors le bus des joueurs français devrait arriver d'un instant à l'autre. D'ailleurs, on voit les images, ça permet d'égayer cette fin de journée. Il y aura probablement 3 changements dans le 11 de départ de Didier Deschamps. Jules Koundé pourrait jouer son premier match dans un euro et remplacer Benjamin Pavard en difficulté lors du dernier match. Retour probable de Lucas Hernandez pour apporter sa grinta sur le côté gauche. Et puis au milieu, Corentin Tolisso devrait suppléer Adrien Rabiot. On est Rabiot, donc on est loin du turnover opéré en Russie il y a 3 ans de la Coupe du Monde. Pour le troisième match des Bleus dans la phase de groupe. Car pour Hugo Lloris, c'est bien pas question de calculer. Il faut gagner ce match pour finir premier et aller à Bucarest afin d'affronter soit l'Ukraine, soit la Suisse. Une équipe portugaise qui, de son côté, n'est pas encore assurée de figurer en 8e de finale. Elle doit gagner ou faire match nul. Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, devrait logiquement être déchaîné ce soir.
Bien, le pronostic de Cyril de la Morinerie.
Souvenez-vous, je vous avais dit 1-0, j'avais dit pour la France face à l'Allemagne. Et le résultat, c'était 1-0. Alors ce soir, je dis 2-0 pour les Bleus, mais on verra si j'ai raison.
Bien, Madame Irma est avec nous ce soir. Merci à Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 en direct depuis le stade de Budapest. Alors en France aussi, les supporters évidemment se préparent et à Poissy, en région parisienne, ils pourront même en profiter pour se faire vacciner.
Oui, tous les piquets de foot qui iront voir le match dans la fan zone pourront au passage se faire injecter une dose. Initiative bien sûr pour encourager la vaccination, comme l'explique Philippe Dompère, médecin à Poissy et à l'origine de ce projet.
De 19h à 21h, juste avant le coup d'envoi du match, on aura à peu près une centaine de vaccins à proposer. Tout le monde peut venir, l'entrée est libre. On travaille en collaboration avec l'ARS et on essaie toujours d'aller chercher les personnes qui ne sont pas vraiment bien suivies, qui ne viennent pas spontanément. Donc en fait là, l'idée c'est d'aller vers eux. Dans les centres de vaccination, on a quand même une majorité de personnes, je dirais de plus de 30-35 ans. Et là, c'est vrai que c'est vraiment une occasion inédite pour pouvoir vacciner une population beaucoup plus jeune. Là, on voit bien qu'il y a la forme Delta notamment qui sévit dans certains pays. Donc plus on va se vacciner, plus on aura un petit peu d'avance sur le virus et donc plus on pourra lutter contre lui.
Philippe Dompère, médecin à Poissy, au micro Europe 1 de Luz Escoubès. En parlant de Covid, la situation se dégrade dans les Landes avec le variant Delta. Il y représente 70% des cas de contamination. Le Premier ministre Jean Castex et Olivier Véran, ministre de la Santé, se rendront demain à Mont-de-Marsan. D'après l'Agence sanitaire européenne, ce variant Delta pourrait concerner 90% des nouveaux cas dans l'Union européenne d'ici la fin du mois d'août.
La ville de Munich, maintenant en Allemagne, aura ce soir les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs de la communauté LGBT. Des bâtiments publics seront illuminés, mais pas le stade.
Oui, ce qui fait l'objet d'un bras de fer depuis maintenant 2 jours. Munich voulait profiter du match Allemagne-Hongrie pour dénoncer la politique homophobe des Hongrois. Veto de l'UEFA. Il n'empêche, Simon Rubin, vous êtes à Munich pour Europe 1. On voit quand même partout les couleurs LGBT aux abords du stade.
Et oui, puisque à la sortie du métro devant le stade, hein, depuis 2 heures, plusieurs associations LGBT+ distribuent des drapeaux arc-en-ciel. Tous les spectateurs devraient en avoir. Même les stadiers ici ont mis des brassards, en tout cas certains d'entre eux, hein, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Écoutez, Gunther, il est venu participer à cette distribution de drapeaux. Pour lui, c'est très simple. Il faut envoyer un message au gouvernement hongrois et à l'UEFA.
On ne comprend pas qu'on ne puisse pas illuminer le stade aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est important que ces gens voient qu'on est là, fiers et nombreux. Parce que ce n'est pas mal d'être gay. C'est ça qui compte pour nous.
Montrer à l'UEFA qu'elle se trompe, hein, elle qui n'a pas accédé à la demande de la ville, hein, d'illuminer le stade aux couleurs de la cause LGBT+, au motif que cela serait politique, au motif également qu'il s'agirait de populisme, hein, dit le patron de l'UEFA, Alexander Seferin. Alors on rappelle quand même qu'au début de l'Euro, le Parlement de Hongrie a voté une nouvelle loi discriminante envers les personnes LGBT+, s'attirant d'ailleurs les foudres de toute l'Union européenne. Alors le match sportif ici n'a pas commencé, mais vous l'aurez compris, le match politique est bien lancé à Munich. Et on va voir, hein, d'ici quelques minutes si les joueurs allemands, à leur tour, ont préparé quelque chose pour leur entrée sur le terrain.
Simon Rubin, en direct pour Europe 1 de Munich. Dans l'actualité également, le Conseil des ministres ce matin et autour de la table, ambiance particulièrement électrique.
Oui, Éric Dupond-Moretti, hein, le garde des Sceaux, n'a pas apprécié des propos publics tenus hier par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a félicité Xavier Bertrand pour son résultat au régional dans les Hauts-de-France.
Une trahison, l'a taclé Éric Dupond-Moretti. Depuis quand critique-t-on ceux qui gagnent des élections, a répondu Gérald Darmanin. Le plan de relance, feu vert de la Commission européenne à la France. Ursula von der Leyen l'a annoncé tout à l'heure, ce sera 100 milliards d'euros au total, dont près de 40 financés par des subventions européennes. Carole Ferry, tout ne sera pas débloqué tout de suite, mais par étapes.
Alors le premier versement est prévu pour cet été. Il faut encore que le plan soit validé par tous les ministres des Finances des pays de l'Union européenne. C'est prévu le 13 juillet prochain. Ensuite, Bruxelles pourra signer les premiers chèques. Cette année, nous recevrons 5,1 milliards d'euros, ce qui correspond à 13% du montant total. Nous demanderons ensuite chaque année un nouveau versement jusqu'en 2026. Le second versement donc devrait avoir lieu l'an prochain pour un montant d'environ 7 milliards d'euros, qui n'est pas encore confirmé. Ce sera décidé à l'automne. Mais à chaque fois, il faudra montrer que les premiers versements ont été dépensés à bon escient. La France s'est engagée à dépenser 50% des sommes dans la transition énergétique, 25% dans la transition numérique. Eh bien, il faudra prouver que cela a été fait. Prouver par exemple que MaPrimeRénov' fonctionne, c'est déjà le cas. Que la rénovation énergétique des bâtiments publics a été faite. 1500 projets sont déjà lancés. A priori, donc, nous serons dans les clous. Mais vous voyez, on est loin d'un chèque en blanc de l'Union européenne.
Carole Ferry du service économique d'Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, restez avec nous, 19h08, dans quelques secondes. On s'intéressera au procès de la tuerie des trois DEC à Nantes. C'est la personnalité fragile de l'accusé qui était aujourd'hui au cœur des débats.
Et puis la réouverture d'un mythe à Paris, la Samaritaine vient d'en finir avec 16 ans de travaux.
A tout de suite. Oui, la suite de votre journal, et on s'intéresse donc à la suite de ce procès, hein, celui de la tuerie des trois ADEC. La santé mentale d'Hubert Caouissin était examinée aujourd'hui par la cour d'assises de Loire-Atlantique.
Et c'était le deuxième jour d'audience pour cet ancien chaudronnier soupçonné d'avoir tué sa belle-famille, un quadruple meurtre en 2017 pour un faux trésor. Charles Guyard, vous suivez ce procès pour Europe 1, c'est la personnalité de l'accusé qui était au cœur des débats aujourd'hui.
Oui, et c'est un accusé très prolixe. Sur son enfance, l'alcoolisme de sa mère, présente dans la salle d'audience, sa vie professionnelle et personnelle, il parle de tout, y compris de ses 800 000 images érotiques, pédopornographiques, zoophiles même retrouvées dans son ordinateur. Je ne peux pas m'en empêcher, je télécharge tout sans même faire attention. Un comportement compulsif, obsessionnel, on en revient toujours à cela. Sur ses victimes, notamment le couple Troidec, Brigitte, dit-il, elle est intrigante. Et Pascal, questionne Maître de Oliveira, maintenant ou avant, demande Caouissin. Mais maintenant, monsieur, il est mort. Alors maintenant, c'est Pascal, car avant, c'était crapule. Il était impulsif, brutal, imprévisible. Ainsi, le bourreau décrit-il son supplicié, mais au fond, n'est-ce pas aussi son propre portrait qu'il dresse de lui-même, prisonnier de son délire paranoïaque autour d'un magot dont il croit toujours en l'existence. Hubert Caouissin a mis sa famille au pas pour échapper aux intentions supposées criminelles de son beau-frère, au point de se couper du monde, de modifier les horaires de sortie et les itinéraires sur la route, au point d'opter pour la solution extrême, monstrueuse. Et pourtant, évidemment non. Hubert Caouissin n'est pas un monstre, comme l'a rappelé son avocat, Patrick Larvor.
C'est un homme que nous défendons, c'est pas un monstre. Un homme capable d'avoir des émotions.
De l'émotion, Caouissin en a distillé, c'est vrai, notamment en parlant de son fils. J'envisage de couper les ponts, ce sera mieux pour lui, sinon il va m'attendre toute sa vie. La preuve que l'accusé, malgré ses obsessions, est aussi capable de lucidité.
Charles Guyard, correspondant dans l'Ouest pour Europe 1. Dans le Val-d'Oise, la mort d'un homme après avoir reçu un tir de taser par un policier qui intervenait avec des collègues sur une expulsion locative. Selon les fonctionnaires, l'homme aurait tenté de les attaquer avec un couteau. L'IGPN est saisi.
16 ans après sa fermeture pour travaux, c'est un mythe des grands magasins parisiens qui a fait sa réouverture aujourd'hui.
La Samaritaine, enseigne emblématique construite au 19e siècle, a fait peau neuve. Installée au cœur de Paris, entre le Pont-Neuf et la rue de Rivoli, elle a rouvert ses portes ce matin.
Les clients étaient donc très nombreux. Océane Tréhard est allée les rencontrer pour Europe 1.
Devant l'imposante façade du magasin, à deux pas du Pont Neuf, les curieux s'arrêtent, smartphone à la main. C'est le cas de Marie-Laure.
Oui, j'étais en train de prendre une très belle photo des initiales des fondateurs de la Samaritaine, les Cognac Jet. Oui, cela fait 15 ans que je ne suis pas venue à la Samaritaine. Je trouve ça magnifique et puis il y a une part de Paris qui se réveille et j'ai trouvé ça très beau. Ça représente vraiment la vie parisienne, je trouve.
Ce Paris du 19e se retrouve à l'intérieur une fois les doubles portes franchies.
Madame, bonjour, bienvenue à la Samaritaine. Voici un petit bracelet de bienvenue.
Le regard est tout de suite happé par l'escalier central. Une rampe tout en arabesque dans le style Art Nouveau, le S de la Samaritaine recouvert de feuilles d'or. De quoi raviver les souvenirs de Cathy qui fait ses emplettes au rayon parfumerie.
Ma maman travaillait à la Samaritaine. Pas dans ce bâtiment, dans le bâtiment à côté. C'est magnifique. Vraiment, j'avais l'impression que c'était complètement caché à l'époque et que d'un seul coup, je redécouvre un bâtiment avec une architecture très moderne. Quand on est là, on se sent quelqu'un d'autre.
Pour se sentir quelqu'un d'autre, il faudra quand même de l'endurance. Cette Samaritaine remise à neuf s'étale sur plus de 20 000 mètres carrés et 5 étages.
Océane Théard. Julien reconnaît
bien
la musique.
Bien sûr.
Et donc c'est qui?
Elton John.
Ah ouais, pas mal.
Ouais. Je l'avais écrit. Bah oui, c'est la faute, mais j'étais pas né, mais. Mais vous peut-être.
À peine, salaud. C'est sa grande tournée d'adieu, 30 dates en Amérique du Nord, en Europe, et puis ce sera fini, rideau, son tout dernier concert en France. Ce sera le 11 juin 2022 à la Défense Arena à Paris.
Et on sera au rendez-vous pour ceux qui ont
vous
la chance
aurez
d'avoir.
Le droit d'y aller, vous aurez juste 18 ans, je pense.
Pas loin. Mm. Merci Christophe Carré, vous revenez quand vous voulez dans Europe Soir. Merci à vous. La météo, Anissa Haddadi, avec du mieux demain, du soleil mais des orages, prudence.
Oui, ça y est, enfin l'anticyclone Julien est proche de l'Atlantique et vous le savez que quand l'anticyclone est là, on a du beau temps. Alors, il est en train de pousser la goutte froide vers l'est du pays. Donc pour faire simple, demain le soleil est de retour par l'ouest avec sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, les Pays de la Loire et la région parisienne des éclaircies, timides le matin mais agréables l'après-midi et puis à l'est des Pyrénées jusqu'à la Bourgogne, on aura encore de l'instabilité avec des orages en particulier entre le Massif central et les Alpes, des orages qui pourraient être forts dans la vallée du Rhône. Les températures 8 degrés à Caen demain matin, 10 à Brest, 11 à Lille, 13 à Paris et Toulouse, couvrez-vous, 15 degrés à Lyon, 18 à Marseille et 20 à Nice. Dans l'après-midi, comptez 17 à 31 degrés du nord au sud.
Anissa,
oui.
Vous connaissez ça?
Oui. J'étais pas née non plus.
Bah oui, je sais, c'est pour ça que
et
je vous fais la blague.
Et pourtant, je connais.
Elton John, évidemment, on adore Elton John dans Europe Soir. Merci Anissa. On vous retrouve demain, évidemment, dans Europe Soir.